VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Une réduction des combats devant durer une semaine prévue entre talibans américains et forces de sécurité afghanes va démarrer demain samedi après des semaines de négociations. Ce ralentissement des combats, s'il est effectif, devrait ouvrir la porte à la signature d'un accord entre Washington et talibans sur un retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Et les talibans, pour leur part, sont pleinement engagés à respecter les termes d'un accord le cas échéant. C'est Sirajuddin Haqqani, le numéro 2 des talibans, qui l'affirme dans une tribune parue dans le New York Times. Abdourahman Dia.
Ce que les talibans veulent est le titre d'un article inédit paru dans le New York Times. Sirajuddin Haqqani, à la tête du réseau Haqqani, la branche la plus sanglante des insurgés afghans, écrit: nous sommes sur le point de signer un accord avec les États-Unis et nous sommes pleinement engagés à en appliquer toutes les dispositions dans la lettre et l'esprit. Le texte est écrit en anglais alors que son dernier message audio, qui remonte à 2017, était en langue pachtoune. Washington devrait commencer à retirer ses troupes d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires. M. Haqqani s'est montré rassurant quant à leur volonté d'empêcher des groupes extrémistes de trouver refuge en Afghanistan, une autre clause du futur accord de paix. Les talibans ont toujours refusé de prendre langue avec les autorités afghanes, qualifiées de marionnettes, mais M. Haqqani s'est montré plutôt optimiste. Il affirme qu'ils sont engagés à travailler avec les autres partis dans un esprit de respect sincère afin de trouver un nouveau système politique inclusif. D'après un haut responsable afghan, la signature pourrait intervenir le 29 février à Doha après une année de négociations entre les États-Unis et les talibans.
Et puis ici aux États-Unis, Roger Stone, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, a été condamné hier à 3 ans et 4 mois de prison. Son procès a déclenché une polémique à Washington en raison des accusations d'intervention du président dans le dossier. La Corée du Sud a annoncé vendredi après-midi 48 nouveaux cas de coronavirus, un chiffre qui vient s'ajouter aux 52 personnes déclarées contaminées plus tôt dans la journée, ce qui porte à 204 le bilan de patients contaminés dans le pays. Parmi les derniers cas enregistrés, 46 ont un lien avec une secte chrétienne. L'église Sejongji de Jésus de la ville de Daegu a déclaré dans un communiqué le centre coréen de contrôle et de prévention des maladies.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et à Washington, il est 6h03. L'actualité sur le continent, l'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, a assuré vendredi qu'il s'opposerait militairement aux envahisseurs turcs, Ankara soutenant le gouvernement de Tripoli. Si les pourparlers inter-libyens visant à établir un cessez-le-feu durable échouent, le maréchal était en visite à Moscou, selon l'agence de presse russe RIA Novosti, la Russie étant largement considérée malgré ses dénégations, comme l'un des principaux soutiens de M. Haftar dans son conflit armé avec les troupes du gouvernement syrien d'Union nationale, le GNA, de Fayez al-Sarraj. La Turquie du président Recep Tayyip Erdogan soutient, elle, M. Sarraj, avec lequel elle a signé en novembre 2019 des accords de coopération militaire, sécurité et maritime. Les deux hommes se sont vus hier à Istanbul. La campagne électorale pour la présidentielle de demain au Togo a pris fin hier sur l'étendue du territoire. L'éducation, l'économie et la santé étaient entre autres sujets au centre des discours des 7 candidats retenus pour le premier tour de la présidentielle. La jeunesse togolaise a profité de la campagne pour faire entendre ses préoccupations. Reportage à Lomé d'Irénée Hermanoumbo, notre envoyé spécial.
Cela fait plus de 5 ans que Moutalib, la trentaine, a obtenu une licence en droit à l'université de Lomé. Mais il est actuellement conducteur de taxi moto communément appelé Zemidia.
Comme ça n'allait pas et j'ai frappé à certaines portes, j'avais commencé par travailler dans certaines petites entreprises. Et par après, comme c'était des entreprises privées aussi qui n'avaient pas assez de moi, ils ont finalement, jeté les points. Par après, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Donc je me suis dit, je dois me lancer dans quelque chose. pour pouvoir mobiliser un peu de fonds et commencer l'entrepreneuriat.
Comme Moutalib, ils sont nombreux ces jeunes Togolais à se forger un avenir dans l'informel. Ici au ministère de la fonction publique, les plus téméraires chercheurs d'emploi continuent de déposer leur dossier de candidature.
C'est une obligation pour nous. Parce qu'on a fréquenté, on veut du travail, on doit travailler.
Alors, je suis là pour faire le dépôt du concours du ministère de la fonction publique, comptable niveau bac.
Pour Moutalib, le scrutin de samedi est d'une importance capitale, non pas seulement pour lui, mais aussi pour le peuple togolais.
J'irai voter, bien sûr, parce que c'est mon pays qui en dépend, c'est le développement de mon pays, c'est la nature de mon pays et l'avenir de la jeunesse qui en dépend.
Comme c'est un droit civique, je dois rappeler mon devoir.
On espère que ce qu'on va voter se ressentira au niveau du score et que ce ne sera pas une élection non transparente.
Pendant ce temps, les candidats pour le scrutin multiplient les rencontres avec de potentiels électeurs dans les différentes régions du pays. Chacun d'eux pour séduire l'électorat et graine des chapelets de promesses. La jeunesse togolaise, qui visiblement semble se lasser des promesses électorales, espère une amélioration de ses conditions de vie.
On n'a qu'à nous aider, mais c'est tout ça simplement, parce que c'est une visite. Les gens s'ouvrent, mais on n'a qu'à nous aider.
Ce que nous demandons que le gouvernement fasse, c'est quoi? Qu'ils essayent de voir ceux-là qui ont l'âge avancé un tout petit peu, qu'on les appelle, qu'on essaie de les insérer en attendant. Vous voyez déjà? Sinon, ce serait un peu difficile de voir la majorité des diplômés en chômage. On peut toutefois quand même essayer de voir ce niveau.
Le clap de la fin de la campagne électorale a été donné jeudi. Samedi, plus de 3,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour une élection qui, espère-t-on, donnera un nouvel élan de développement au Togo, notamment à sa jeunesse qui compte beaucoup sur le prochain président. Irene Herman Humba, Lomé, VOA Afrique.
Le président Paul Kagame du Rwanda et son homologue Yoweri Museveni de l'Ouganda se rencontrent aujourd'hui à la frontière entre leurs pays pour tenter de résoudre le conflit qui les oppose. Eddy Sango.
C'est à Katuna, localité entre les deux pays, que les Rwandais Paul Kagame et son voisin ougandais Yoweri Museveni vont essayer d'enterrer la hache de guerre. La rencontre se tiendra sous la médiation de leur homologue congolais Félix Tshisekedi et du président angolais João Lourenço. Elle sera la quatrième du genre. Museveni et Kagame s'étaient déjà rencontrés le 21 août dernier à Luanda, en Angola. Ils avaient promis de régler leurs différends et échanger des prisonniers, ce qui a été fait jusque mardi. La tension entre les deux voisins s'était attisée l'année dernière. Kigali et Kampala s'accusaient mutuellement d'espionnage et de soutenir des rebelles. M. Kagame avait récemment proféré des menaces à peine voilées contre son ancien allié. Leur rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un nouvel effort pour faire baisser la tension.
Le premier ministre du Lesotho a fait faux bond aujourd'hui à la justice de son pays. Thomas Taban était convoqué au tribunal de Maseru pour se voir notifier formellement son inculpation pour le meurtre de sa précédente épouse en 2017. Il a quitté le pays avant, en déplacement en Afrique du Sud, officiellement pour des raisons médicales. Et retour à l'actualité américaine, Roger Stone, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, a été condamné, je l'ai dit, hier à 3 ans et 4 mois de prison. Son procès a déclenché une polémique à Washington en raison des accusations d'intervention du président dans le dossier. Les précisions avec Jacques Aristide.
Le département américain de la justice avait déjugé ses procureurs qui avaient initialement requis entre 7 et 9 ans contre Roger Stone, reconnu coupable en novembre dernier d'avoir menti au Congrès. Ce département s'est toutefois défendu d'avoir agi sur instruction de la Maison-Blanche. Ses recommandations d'une sentence comprise entre 3 et 4 ans ont été suivies par la juge fédérale Amy Jackson. Après le prononcé de peine, elle a déclaré que Roger Stone n'avait pas été poursuivi pour avoir défendu le président, mais pour l'avoir couvert, dit-elle, tout en se félicitant que la vérité existe et importe toujours. À Las Vegas hier, le président Trump a indiqué que Roger Stone a de bonnes chances d'être innocenté, sans confirmer s'il utiliserait son droit de grâce pour réhabiliter son ancien conseiller. Le chef de l'exécutif américain avait déjà dénoncé une erreur judiciaire, mais laissé planer le doute quant à une amnistie présidentielle pour ce consultant de 67 ans, connu pour son style flamboyant et son tatouage de Richard Nixon dans le dos.
Merci Jacques Aristide. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.